Et sur ces entrefaites, il est l'heure de souhaiter bienvenue à toutes les auditrices et auditeurs qui nous rejoignent pour suivre cette émission spéciale à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. Sous le haut patronage de l'UNESCO, 9 radios associatives de Gironde se sont unies pour diffuser ce programme en simultané. RCF, La Clé des Ondes, Plage FM, Acquis FM, Radio Entre-deux-Mers, Radio Campus, Bordeaux, O2 Radio, RIG à Blanquefort et Mélodie FM à Libourne. Libourne où le monde du théâtre malmené par la crise sanitaire fait de la résistance du côté de la salle Le Bazar. Et quand le comédien Philippe Feltret y pousse un coup de gueule, il croise la route et le micro de Daniel de Mélodie FM, 89.3 à Libourne et 89.1 à Castillon-la-Bataille.
Allez, l'actualité, tiens, on va parler, vous savez que ce samedi, c'était l'ouverture un petit peu, c'est pas de la désobéissance, comme on va dire, mais c'est vrai que c'est un mouvement national, et le bazar fait partie aussi de ces scènes qui est importante dans la culture du Libournais. Alors Philippe, vous avez joué ici, dans cette salle de bazar, vous êtes venu un petit peu soutenir, un petit peu, et j'ai vu que les gens, la population libournaise, sont venus aussi.
Oui, absolument. D'abord, c'est la moindre des choses en tant que professionnel qui ait travaillé au Bazar, qui est une charmante petite salle à Libourne, de venir par solidarité pour Gilles Troulet, pour la direction, pour les gens qui travaillent ici. Et puis, c'est une heure symbolique. Hein, de 15 à 16 heures, c'est vraiment purement symbolique. On revoit un peu des gens, des amis, du public qui vient soutenir ce théâtre, des intermittents qui ont joué ici. Cette initiative nationale a été lancée par un théâtre d'Avignon. Comme on le sait, Avignon, c'est le temple du théâtre en France. Ils en vivent, hein, ils nourrissent et ils se nourrissent de ce festival magnifique. Ça a été repris, je crois, cette initiative d'ouverture symbolique par à peu près 200 théâtres en France, ce qui est magnifique, parce qu'il va bien falloir qu'on trouve une façon de dire « Oh là, oh là, on existe encore, on est là, on ne demande qu'à travailler » et surtout, on ne demande qu'à trouver des solutions créatives pour que ces lieux puissent réouvrir dans les normes de distanciation sociale, les normes sanitaires, dans le respect de ça. Personne ne nie qu'il y a un virus très dangereux, mais personne ne nie non plus qu'il va bien falloir vivre et cohabiter avec le temps qu'il faut. Et ce temps, on ne le maîtrise pas. Donc on ne va pas se sacrifier entre-temps. Il faut qu'on trouve des moyens d'ouvrir les lieux de culture et d'y travailler et d'y accueillir du public. C'est tout. Que chacun se prenne le chou et trouve des idées créatives pour ça. Donc nous, on essaye, là, aujourd'hui. Hein, c'est la première débat public dans ce théâtre.
Alors, comment ça se passe pour vous on va dire, ça fait presque un an. C'est vrai que le spectacle, la culture manque aux gens, les intermittents aussi. Les gens ont soif de cette culture et on voit que la culture a une importance dans la vie des citoyens.
Bien sûr. Alors, la culture est importante. Vous savez, ce qu'on se souvient d'une société ou d'une civilisation, c'est des œuvres d'art, hein. C'est pas des petits généraux et des petits secrétaires d'État. Hein. Donc, la question de la culture, elle est sous-tendue par le régime des intermittents. On ne répétera jamais assez au grand public que intermittent du spectacle, c'est pas un statut. C'est un régime salarié qui est assujetti à deux annexes particulières de l'UNEDIC, les fameuses annexes 8 et 10, qui fait qu'il faut travailler un certain quota d'heures pour avoir un droit à des indemnités le reste du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas ces indemnités, on ne crée pas de spectacle, on ne compose pas de musique, on ne répète aucun concert, etc., et rien ne se passe. Bien. Donc nous sommes là pour ça. Ça veut dire que ce gouvernement a décidé au printemps dernier de prolonger les droits des intermittents jusqu'à août 2021, ce qui est une chose formidable. Hein, vous savez, c'est relativement unique au monde, ce régime, qui, je le rappelle, a été créé par André Malraux. Hein, donc ça fait un petit bout de temps, c'est dans les années 60. Jusqu'en août 21. Néanmoins, d'ici là, il va falloir recréer des heures de travail pour avoir droit à nouveau à des indemnités. Comment on fait? Soit ils enterrent le truc et ils étouffent la question de la seconde année blanche, puisqu'on s'y prépare quand même à 6 mois près, là, c'est à ça qu'on se prépare. Soit ils vont devoir à nouveau prolonger l'indemnisation dans la série du quoi qu'il en coûte. Ce que je me plais à croire, évidemment.
Alors, comment vous voyez l'avenir? de cette année 2020. C'est vrai que tout le monde avait des espoirs et on voit que certains festivals commencent à annuler et c'est vrai que les gens ont besoin aussi de se rencontrer, que ce soit à Libourne, mais il y a d'autres théâtres aussi en France.
Oui, les grands festivals, ce sont des économies très particulières. Ils ne peuvent pas se permettre de faire du stop and go éternellement. Ils préfèrent donc annuler. Les petites salles avec lesquelles je suis plus familier, moi, professionnellement, c'est une économie très différente, qui est évidemment très fragile. Les loyers pèsent, etc. Il faut espérer que les bailleurs de fonds seront solidaires, hein, eux aussi. C'est le moment, plus que jamais, que nous soyons tous solidaires les uns des autres, hein. Ceux qui ont l'argent et ceux qui n'en ont pas. Hein. Et donc, il va bien falloir qu'on trouve des formes artistiques nouvelles pour se produire et pour travailler. Hors les murs, probablement. Hors les murs, puisqu'on ne peut pas être dans des salles confinées. Donc il faut que tous, intermittents, aujourd'hui c'est une première, qu'on fasse preuve d'imagination pour imaginer de nouvelles formes artistiques rémunératrices, évidemment, hein, et populaires, hein, pour qu'on retrouve notre public et qu'on retrouve notre travail. Le débat reste entier.
Philippe Feltret, comédien au micro de Daniel de Mélodie FM à Libourne. Le débat, oui, en tout cas, il reste ouvert et les micros des radios associatives aussi. Mais au fait, par quelle magie toutes ces infos circulent-elles d'un bout à l'autre du monde et dans le cas qui nous intéresse cet après-midi, d'un bout à l'autre de la Gironde ? Ce n'est certainement pas à moi qu'il faut le demander, car je ne suis qu'un animateur, un oiseau qui gazouille au micro. Non, pour vraiment comprendre comment ça marche, il nous faut les tuyaux d'un vrai pro de la radio. Et comme vous le savez, quand on a envie d'en savoir plus, on demande à Radio Campus. Direction donc Talence, son campus universitaire, et perché tout là-haut sur un grand cube vert, les studios de Radio Campus Bordeaux 88.1 où nous attend Nicolas Loubert en compagnie de son invité Jacques Gruson, un vrai vétéran buriné, ancien de l'ORTF et de TDF, pour devenir des pros de la bande passante. Suivez le guide.
Campus Bordeaux 98.1
Campus Bordeaux
88.1.
Jacques Gruson, bonjour. Merci, bonjour. Merci d'accorder cet entretien à Radio Campus dans le cadre de cette émission spéciale que nous réalisons pour les 40 ans des radios libres. Mais nous, on va peut-être remonter un petit peu plus loin dans le passé et on va parler un petit peu de tout ce qui est autour de la radio, ce qu'est la radiodiffusion. On va parler des ondes radio, des ondes hertziennes, la bande FM, de la modulation de fréquence. On va évoquer aussi le matériel. Mais dans un premier temps, j'aimerais qu'on fasse connaissance, Jacques Gruson. Qui êtes-vous? Quel a été votre métier? Quel a été votre rôle dans la radiodiffusion, vous, personnellement?
Donc j'ai 73 ans, je suis à la retraite et j'ai passé toute ma carrière, je dois dire, dans ce milieu-là. J'ai connu l'ORTF, je suis rentré le 3 novembre 70. À l'époque, je suis rentré dans les reportages, c'est-à-dire le Tour de France, on appelait ça la vidéo mobile. En 75, il y a eu l'éclatement de l'ORTF et la création des différentes sociétés, dont TDF, Télédiffusion de France, et j'ai été rattaché à TDF, où je me suis occupé de tous les aspects techniques. Je suis parti en coopération entre 72 et 74 au Niger, 75-79. J'étais en Côte d'Ivoire pour travailler dans des télévisions scolaires. Je me suis occupé de radio, de TV, de télétexte, de télévision et de radio numérique.
On ne sait pas forcément comment ça fonctionne. On a l'habitude d'allumer son poste de radio et puis d'écouter nos émissions favorites, notamment pourquoi pas Radio Campus Bordeaux ou d'autres radios associatives de Gironde. On sait rarement comment ça fonctionne. Déjà, est-ce qu'on peut dire en quelques mots peut-être ce qu'est une onde radio finalement?
Oui, une onde radio, c'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire c'est une oscillation. Normalement, c'est une dalle. Et il faut savoir que ces ondes électromagnétiques, on les rencontre depuis le courant continu. Le courant continu, on peut pas dire que c'est une onde électromagnétique parce que c'est une onde donc continue, mais dès que ça commence à avoir des pulsations, ça devient une onde électromagnétique, et ça va en passant par les ondes radio, les ondes lumineuses, la lumière, et puis au-dessus, les rayons X, rayons gamma, les rayons à haute énergie, etc.
Quand on parle d'ondes hertziennes, est-ce qu'il y a une différence ?
Alors, les ondes hertziennes, ce sont les ondes qui sont diffusées dans, on appelle ça dans l'éther, c'est-à-dire dans l'atmosphère et dans le vide, qu'on peut recevoir chez soi avec des conditions de propagation variables, suivant qu'on est en modulation de fréquence, où ça va pas très loin, ou que l'on soit en onde courte. Dans ce cas-là, ça peut venir de beaucoup plus loin, avec des ricochets dans l'ionosphère, ou que ça vienne de satellites à 36 000 km. Hertzien, je voudrais ouvrir une parenthèse. Bon, ça vient d'un physicien allemand qui s'appelait Hertz, et qui a découvert ces ondes. Enfin, au début, on les connaissait, mais uniquement sous forme théorique, et après, on les a mis en évidence. Hein, Hertz, Popov, Branly, enfin, des tas de gens à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. On prouvait qu'on pouvait émettre une onde à un endroit et la recevoir un peu plus loin. L'émettre, c'était avec des bobines de Ruhmkorff, étincelles, et en mettant une boucle à quelques mètres, on regardait dans le noir avec un très petit entrefer entre la boucle, on a vu apparaître des étincelles. Donc ça veut dire que l'énergie était capable de se déplacer d'un endroit à un autre. Donc on a découvert les ondes hertziennes.
Sur les postes de radio, on voit écrit souvent AM et FM. Alors, est-ce qu'on peut parler de cette différence entre donc la modulation d'amplitude AM et la modulation de fréquence FM ?
Alors, il faut savoir que d'abord qu'une onde radio, on appelle ça une porteuse. Et le problème, c'est que cette onde ne transporte pas d'information, à moins de la découper en tranches, c'est-à-dire de faire du morse. Alors, à l'autre bout, quelqu'un qui a l'habitude est capable de comprendre les points, les traits. Mais bon, pour le grand public, on peut dire que c'est pas génial.
Non.
Bien que les premiers signaux horaires aient été diffusés comme ça. Alors, bon, on part donc d'une porteuse, et maintenant, il faut la moduler. Il faut lui superposer une modulation qui est la parole. Alors, on l'a fait au début en utilisant la technique de la modulation d'amplitude. Ça veut dire faire varier au fur et à mesure que l'on parle, que l'on module, faire varier la puissance de la porteuse. Ça veut dire que si on parle fort, la porteuse grimpe, et si on parle pas du tout, la porteuse elle revient à son niveau de repos. Voilà, donc ça donne la modulation d'amplitude. On appelle ça, sur les postes de radio, AM, ça vient de l'anglicisme, Amplitude Modulation. Et ensuite, on est passé à la modulation de fréquence. Pourquoi d'abord la modulation de fréquence ? Pourquoi ce besoin ? Tout simplement pour obtenir une meilleure qualité sonore. La modulation d'amplitude est liée à l'environnement humain, ça veut dire des parasites. Hein, dès que vous allumez une lampe ou vous mettez en route un mixeur, ça crache et puis vous entendez, ça superpose des bruits étranges, voire ça supprime complètement la réception avec un récepteur à modulation d'amplitude. Alors, il y a eu un besoin qui s'est exprimé, après la Seconde Guerre mondiale, de disposer également d'une qualité meilleure. On est passé du 78 tours au micro-sillon 33 tours, donc on pouvait quand même, on savait faire quelque chose qui était sympathique pour l'oreille. Donc la modulation de fréquence se prêtait bien à ce support. Alors j'en viens à la modulation de fréquence. On utilise une porteuse qui n'est pas modulée en amplitude, donc à amplitude constante, et simplement au lieu d'avoir une fréquence fixe, on fait varier la fréquence. Donc on fait une modulation de fréquence. Ça veut dire que autour de la fréquence nominale, on se balade, on a ce qu'on appelle une excursion, et puis on transporte de cette façon l'information. On est capable de transmettre ça avec une bonne qualité sonore. La modulation de fréquence n'est pas sensible aux parasites, ou moins, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet de limitation. Ça veut dire que la porteuse, on la rabote. On la rabote avec des circuits électroniques, des limiteurs, de façon à supprimer tout ce qui est amplitude, et on ne conserve que la modulation de fréquence. Et ça permet quand même d'avoir une qualité sonore excellente. Il y a eu un gros progrès. Bon, C'était également au début en mono, et on est passé avec un système multiplex, etc., en stéréo.
Quand on parle d'ondes courtes, d'ondes moyennes, ça correspond à quoi, ces appellations-là ?
Ça correspond à ce qu'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est égal à 300 000 km par seconde divisé par la fréquence. Donc pour faire une analogie assez simple avec la FM, on a l'habitude de voir marqués sur le cadran, oui. Là, sur le cadran où s'afficher, hein, sur l'affichage d'une forme ou d'une autre, des récepteurs entre 87,5 et 108 habituellement. Par exemple, si je prends 100 MHz, le milieu de la bande, je peux calculer très facilement quelle est la longueur d'onde correspondant en appliquant la formule 300 divisé par la fréquence, donc 300 divisé par 100, ça fait 3 mètres de longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle VHF, des ondes métriques. On peut déterminer des catégories d'ondes qui vont de fréquences très très longues. Ce sont des ondes longues ou ultra longues. Enfin, les ondes longues, c'était utilisé par exemple par l'émetteur feu, émetteur France Inter, grandes ondes, 162 kHz. Et en passant par les ondes moyennes, et puis en passant par les ondes courtes, qui elles ont des conditions de propagation particulières. Et il y a la bande de radiodiffusion FM, qui est la plus utilisée, qui va entre 87,5 et 108. Ça, c'est des questions d'allocation de fréquences au niveau national ou international.
On est limité avec la FM à un certain nombre de radios, parce qu'il ne faut pas aussi que les fréquences se chevauchent.
En modulation de fréquence, bon, un émetteur utilise à peu près 250 à 300 kHz. Il utilise plus en stéréo, mais tout le monde est en stéréo maintenant. Il y a un côté réglementaire. Et d'autre part, il faut éviter aussi les brouillages. Ça veut dire que une même fréquence peut être réutilisée un peu plus loin, par exemple à 200 km environ. Et donc il y a tout un travail de coordination pour éviter qu'il y ait des interférences entre les émissions.
Avant 1981, il y a des radios pirates qui émettent sur les ondes. Comment ça se passait alors? Comment elles faisaient pour émettre?
Avant 1981, il y avait le monopole total. C'était Radio France, l'opérateur public, donc qui diffusait dans la bande FM, qui au début était un peu plus étroite d'ailleurs, mais enfin, de toute façon, il y avait 3-4 programmes, genre France Inter, France Culture, France Musique, FIP, peut-être, il me semble qu'il y avait aussi une radio Sorbonne, ce genre de choses. Enfin, il y avait largement de la place. Et évidemment, ça a attiré l'appétit de ce qu'on appelait à l'époque les radios libres, qui étaient d'abord des radios syndicales dans l'Est, où il y avait les mines qui fermaient, etc. Des radios plus ou moins associatives ou des radios politiques ont essayé de démarrer. Et en fait, c'est en 81, à l'arrivée de Mitterrand, que ces radios ont été, légalisées. Et on leur a alloué des fréquences, parce qu'avant, ces radios étaient interdites, étaient d'ailleurs pourchassées, brouillées, et le matériel était saisi.
On va maintenant parler un petit peu du matériel. Alors, par exemple, j'ai envie de monter une station de radio et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir commencer une activité radio?
Le CSA lance des appels à candidature. Quand il y a des fréquences qui se libèrent, des réorganisations, il y a des radios associatives qui abandonnent faute de moyens, etc. Donc vous pouvez candidater. Et en fonction de votre dossier, on va vous allouer une fréquence et une certaine puissance d'émission. Une certaine puissance d'émission également, un certain type d'antenne, ce qui détermine en fait, grosso modo, la portée de l'émetteur.
Je crée mon émission de radio, je transmets le son du studio à l'émetteur. L'émetteur, le son va à l'antenne et après ça se propage pour qu'on puisse réceptionner ce signal, c'est ça?
Il y a l'aspect production, il y a l'aspect transport, parfait sauvardien, ou maintenant il y a des solutions via internet sur IP qui sont assez souples. Et là on attaque ce qu'on appelle la diffusion. Alors la diffusion, suivant le cas, elle est faite par l'opérateur de contenu lui-même, qui a son propre émetteur, ou elle peut être confiée, cette diffusion, à un opérateur de diffusion. Cet émetteur est alimenté par votre signal, il part, il est envoyé dans l'antenne, il est en général multiplexé, ça veut dire qu'on met plusieurs émetteurs sur le même câble coaxial. Ce câble coaxial, il véhicule l'énergie jusqu'aux antennes. Donc on mutualise les moyens.
J'aimerais qu'on évoque le DAB+, donc la radio numérique terrestre. Alors est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu là-dessus ?
DAB+, il faudrait déjà parler de DAB. Parce qu'il y a eu le DAB à la fin des années 90 qui utilisait en fait le même type de modulation. Alors là, on arrive à des modulations numériques qui viennent un peu corriger les défauts de la modulation de fréquence, parce que la modulation de fréquence, vous avez dû peut-être constater ce problème quand vous êtes à un feu rouge. Quelquefois, vous vous arrêtez, vous êtes à l'arrêt, vous recevez très mal, ça décroche, ça cafouille, mais il suffit que vous détassiez un tout petit peu pour que ça revienne, simplement parce qu'il y a des interférences entre ce qu'on appelle le trajet direct de l'onde que vous recevez de l'émetteur et des trajets multiples, ça veut dire des réflexions sur les bâtiments. Et vous avez en fait un moment où le signal direct et le signal réfléchi sont quasiment à égalité, mais en opposition de phase, et ça annule. Donc vous recevez tout. C'est un problème d'écho. Alors, en fait, on a développé des systèmes de modulation numérique, en particulier des systèmes multiporteuses. S'il y a des porteuses qui sont abîmées par les échos, il y en a d'autres qui ne le sont pas, parce qu'il y a un étalement du spectre. Et tout ça, ça permet, avec des codes d'erreur, ça permet de reconstituer un truc sympathique.
Quand on écoute un peu en DAB+, la radio, ça fait pas comme la modulation de fréquence qui, par exemple, va crachouiller quand on commence à s'éloigner un petit peu trop de l'antenne, de la radio. Le DAB+, soit ça passe, soit ça casse.
Absolument. Oui, vous avez l'effet... falaise, quand vous êtes au bord de la falaise, ça va, mais dès que vous allez un tout petit peu trop loin, donc ça casse. Il y a ce qu'on appelle des tas de codes de correction d'erreur qui sont capables de corriger le signal jusqu'à un certain point, et quand ils peuvent plus, vous avez le signal qui est haché, ou alors vous recevez plus rien du tout.
Merci beaucoup, Jacques Gruson, d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir. Enfin, pour moi, ça a toujours été une passion.
校园之声 88.1
Campus Bordeaux
88.1
2021, une année radiophonique. 100 ans de la radio, 40 ans de liberté des ondes, 20 ans de la Fédération des radios associatives de Gironde. Alors rendez-vous samedi 13 février sur notre antenne pour la Journée mondiale de la radio.
Merci Radio Campus Bordeaux pour ce petit cours de radiotransmission opérationnelle. Et c'est juré, je ne touche plus à aucun bouton que je ne connais pas dans le studio. Car il faut bien l'avouer, le monde de la radio se divise en deux. Les techniciens, dont on ne parle jamais, mais sans qui on ne nous entendrait pas souvent. Alors eux, ils sont trop bons en physique, trop bons en informatique et en fer à souder. Et s'ils n'ont rien d'autre sous la main, ils sont capables de refaire démarrer un émetteur avec un rouleau de gaffeurs et une pince à épiler. Oui, juste ça. On leur fait trop plein de bisous. Et puis, il y a nous, les animateurs. On n'est pas bon en maths, nul en technique, mais on est hyper sympa. Vous en voulez une preuve ? On s'offre un petit bol d'air en fil sur le bassin d'Arcachon. Retrouvez Nicolas, l'animateur de Plage FM 89.1, l'esprit bassin d'Arcachon, un slogan qui résume tout. Plage FM, c'est la radio de tous ceux qui habitent autour du bassin, et comme autour du bassin il y a aussi des stars, l'occasion était belle de demander à l'une d'elles ce qu'elle pensait des radios libres. Bienvenue au carré VIP de Plage FM 89.1 avec Nicolas et Damien Sargue. On n'est pas les rois du monde là ?
Aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 février, journée mondiale de la radio sur Plage FM. Et pour forcément fêter l'événement, nous avons décidé de recevoir un invité de marque qui s'appelle Damien Sargue. Salut Damien.
Salut.
Ça va?
Bah écoute, ça va très bien. Oh ouais, très content d'être ici, très content de cette invitation.
Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour parler de la radio en général, puisque c'est la journée mondiale de la radio aujourd'hui. Alors pour être très franc, on avait une petite fête organisée normalement avec tous les copains de toutes les radios locales de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, la situation actuelle fait que c'est compliqué, on va remettre ça plus tard. Par contre, on a décidé donc de tous réaliser une petite émission, mettre tout ça en commun pour dire que la radio, de façon générale, aujourd'hui est un moyen important de communication.
C'est bien vrai, c'est bien vrai.
Et on va parler avec toi justement de ce que la radio a pu t'apporter tout au long de ta carrière. Alors Damien Sargue, peut-être qu'on peut écouter d'abord quelques chansons. Damien Sargue, c'est ça ? On s'en souvient, Roméo dans Roméo et Juliette. Quelle comédie musicale extraordinaire.
C'est quelque chose qui a marqué ma vie, qui la marque toujours.
On va en reparler. Il y a également les Trois Mousquetaires, bien sûr, avec cette chanson. Alors avant de parler de ce que la radio a pu t'apporter, Damien, on va résumer ta carrière en quelques mots. Je sais, c'est pas facile, mais on va essayer. Allez, c'est le challenge de la journée. Alors, t'as commencé à l'âge de 8 ans. On va revenir il y a longtemps en arrière. Et moi, je savais pas, tu me l'as dit en discutant ensemble, avec une émission, alors je ne sais pas si on s'en souvient encore ou les gens s'en souviennent, une émission qui t'a marqué. Hein.
Ouais, une émission qui s'appelait « Et un été chaud » de Thierry Beccaro. Et je remercie parce que c'est grâce à Thierry Beccaro que j'ai pu faire ma première télé et qu'on a pu me repérer après par la suite. Ça a été ma première émission, je sentais les valses de Vienne de François Feldman. Et j'ai encore la vidéo. La dernière fois, j'étais passé chez Hanouna, il m'avait fait le petit clin d'œil justement de me repasser l'émission. Et voilà, ça a été ma première émission, mon premier truc professionnel.
Un bon souvenir.
Super souvenir.
Ensuite, il y a un certain Jean-Pierre Foucault aussi, hein, que tu as pu croiser.
Évidemment, ouais. Après, ça a été les numéros 1 de Demain, où il fallait, c'était un radio-crochet à l'époque. Et puis, j'ai eu la chance de gagner les 6 fois. J'ai fait un single à cette époque-là qui s'appelle Emmène-moi. Et c'était en même temps l'ouverture du parc Disneyland. Et on avait fait le dernier enregistrement là-bas. C'était un super souvenir, ça aussi. C'était génial.
Tu avais quel âge ?
J'avais entre 10 et 11 ans là, à cette époque-là, ouais.
C'est jeune, donc
c'est très jeune. Tu vois, moi qui suis papa aujourd'hui, je sais pas si je mettrais ma fille sur un truc comme ça.
Après le succès arrive encore plus fort puisque tu deviens la doublure de Patrick Fiori dans Notre-Dame de Paris.
Exactement.
Et là ça y est, tu mets vraiment les deux pieds dans le monde du spectacle version grandeur nature, hein.
Plein dedans et ça a été très formateur pour moi, ça a été l'école de la comédie musicale où on apprend le chant, la comédie, la danse, à maîtriser une scène, à vivre avec une troupe, ça a été extraordinaire, une super école pour moi et je le recommande à tout le monde.
Alors il y a Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, les Trois Mousquetaires, et puis quelques participations aussi, notamment Génération Goldman ou encore Forever Gentleman.
Exactement.
Ça aussi, hein, ça doit être des moments forts.
Ça a été un super moment que ce soit Génération Goldman, Latin Lover, où j'ai pu rencontrer le fils de Rulio, Pablo Alborán, qui est une immense star en Amérique latine. Enfin, on a été enregistré ça à Madrid. C'était vraiment une aventure super et Forever Gentleman. Un des projets que j'ai le plus aimé aussi, c'était la rencontre avec Rock, avec Dany. Puis c'était un projet tellement classe, tellement sympa, tellement à contre-pied de ce qui se faisait sur le moment et qui a extrêmement bien marché. On a fait triple disque de platine. Ouais, c'est des super moments. Il y a eu Danse avec les stars aussi qui était drôle.
Oui. Alors drôle, je sais pas si on peut l'avoir. On en reparlera peut-être parce que je crois que il y a eu quand même beaucoup de travail physique.
Ah ouais, énormément de travail physique. J'ai perdu 6 kilos en 2 semaines. Je pensais pas qu'en danse de salon j'avais perdu autant de kilos.
Je vais peut-être me mettre à la danse alors moi ce soir. Peut-être avoir des envies. Alors bien sûr, une carrière qui commence très jeune avec le succès qu'on te connaît maintenant. On va recentrer tout ça autour de la radio, parce que la radio est un média forcément de proximité, qu'elle soit associative, qu'elle soit commerciale. Dans tous les cas, tu as sûrement, je crois, utilisé la radio, surtout peut-être au début. Tu as des souvenirs d'une petite radio locale quand tu étais plus jeune dans ton village?
Des radios locales à Caen, évidemment, parce que je suis originaire de Normandie, et évidemment. Mais les radios locales ont toujours eu une importance particulière, parce que vous allez voir un artiste qui sort un single, un album, voilà, il va évidemment, on va l'entendre sur des grandes radios généralistes, mais aussi il a besoin de venir en région, de venir faire les radios de la région, parce qu'il y a des radios de région qui marchent mieux que les radios généralistes, et on en a besoin évidemment. C'est un rayonnement, et puis qui est hyper intéressant artistiquement, et même pour plein d'autres choses, mais c'est très important pour nous. Moi, j'ai bien vu, même avec les Trois Mousquetaires, qui a été un très très gros projet, on a fait énormément de petites radios aussi, et on a un contact avec les gens qui est immédiat, quoi. C'est ça qui est en région, qui est super.
Tu as senti le succès en fonction de la diffusion radio, c'est-à-dire qu'on va parler de Roméo et Juliette, par exemple, un projet fou, comédie musicale. Bon, est-ce que ça va marcher, pas marcher? Tu as senti qu'il y avait vraiment un élan quand ça a été diffusé en radio?
C'est vrai que c'est parti comme un météore, Roméo. Ça a été surtout Les Rois du Monde, Aimé, mais c'est sur les radios, ça a été du non-stop. C'était impressionnant. On allumait la radio, on entendait Les Rois du Monde sur n'importe quelle radio, quoi. Ou Aimé, c'était et là, d'un seul coup, tout le monde chante cette chanson. Puis ça fait effet boule de neige. Ouais. Donc on voit l'impact réel que ça peut avoir, ouais.
Toi, tu écoutes, j'imagine aussi beaucoup la radio, forcément, étant du monde de la musique.
Ouais.
Quand tu écoutes une radio locale, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu recherches essentiellement?
Ce que je recherche, c'est l'éclectisme un petit peu musical. Voilà, je suis pas fan d'entendre 12 fois la même chanson sur une radio. C'est vraiment personnel, hein. Mais j'aime écouter de tout, comme dans la vie de tous les jours. Voilà, j'aime m'inspirer de plein de choses, qu'on passe de la musique urbaine, de la musique plutôt jazz, de la soul, de la musique. En ce moment, j'écoute beaucoup de musique brésilienne. Enfin, tu vois, j'aime écouter plein de choses, parce que justement, c'est ce mélange de tout ça qui fait l'origine de beaucoup de créations musicales.
On en parlait en préparant cette émission, c'est vrai que le numérique aujourd'hui, notamment Deezer pour ne citer que, font que beaucoup de jeunes n'écoutent plus beaucoup la radio, puisque dans son appareil on peut avoir toute sa playlist.
Bien sûr.
Toi, t'es quand même encore beaucoup FM, ou tu penches aussi un peu plus sur des sites de diffusion musicale sur internet?
Comme dans beaucoup de choses, je pense qu'il faut prendre un peu l'équilibre de tout. Donc j'écoute la FM. Parce que j'aime ça, surtout quand je suis en voiture, et principalement quand je suis en voiture. Mais parce que aussi j'aime les émissions, j'aime les débats, j'aime écouter, que ce soit aussi des informations, surtout en ce moment dans la besoin. Ouais. Mais des débats d'idées, des débats culturels, des gens, des écrivains, c'est un enrichissement. Je pense qu'on a besoin de ça pour la radio. Et puis après tout le côté musical aussi, je te dis, pour la diversité. Et puis après, oui, effectivement, j'ai mes petites playlists chez moi. Tu vois, je te raconte le matin, j'écoute mes petits bonheurs, mes musicaux.
C'est normal. Et c'est vrai que je trouve important d'essayer de garder le juste milieu, parce que la radio, quand même, fait que ça fait 40 ans que la radio libre existe.
Mais c'est ça, et bravo, c'est magnifique. Et heureusement qu'elle est là.
Exactement, et je pense qu'aujourd'hui on en a vraiment besoin, juste pour parler ce qu'on essaye de faire sur Plage FM, comme beaucoup d'autres radios associatives et locales, parler de celui qui est au coin de la rue, mettre en lumière celui qui fait beaucoup au quotidien et dont les médias malheureusement ne parlent pas assez. Nous, en tout cas, c'est notre rôle.
C'est ça, ouais.
Et c'est vrai que cette fête de la Journée mondiale de la radio, cet anniversaire, tout ce qui arrive là en 2021 autour de la radio, ça va être important de le marquer. Ça va être important d'être avec vous, d'être présent avec vous, chers amis qui nous écoutez, parce qu'on a besoin de vous. J'espère que vous avez un petit peu besoin de nous.
c'est sûr, dans les deux sens, c'est toujours intéressant.
Et puis c'est vrai que même comme toi, Damien, quand tu as connu et que tu connais encore un succès incroyable, tu as fait énormément de radio, tu restes quelqu'un quand même d'assez attaché à la radio locale. Et c'est important pour nous.
Mais c'est important, et c'est important pour les artistes, vraiment.
Je pense qu'il y a certaines radios commerciales qui font très bien leur boulot, mais qui n'ont pas le temps de passer tous les artistes et c'est normal.
Et c'est compréhensible, hein, évidemment, parce qu'ils ont besoin. Voilà, ils ont un chiffre à avoir.
Ouais.
Et comme toute grosse entreprise, évidemment. Et puis maintenant, il y a un choix qui est tellement énorme au niveau de la musique, au niveau des artistes. On voit des gens venir de tous les coins, de tous les bords. C'est tant mieux. C'est enrichissant pour tout le milieu. Mais voilà, ouais. Heureusement que on a des radios associatives. Heureusement qu'il y a des petites radios. Heureusement que, voilà, des gens sont là pour parler de ce qui se passe aussi en région.
Et c'est pas parce qu'on est une petite radio locale qu'on n'a pas la chance de recevoir Damien Sarr.
Hein, c'est un bonheur.
Merci. C'est vraiment pas une histoire de grosseur de radio.
Hein. Non, exactement.
En tout cas, Damien, un immense merci d'avoir répondu présent.
Mais avec grand plaisir.
Merci d'être venu fêter avec nous la journée mondiale de la radio sur Plage FM. Plein d'autres reportages, plein d'autres invités tout au long de cet après-midi. Restez avec nous, les amis. Et nous, on se retrouve très vite. Damien, tu reviens ici quand tu veux. Hein.
Avec grand plaisir.
On va reparler. Il y a un petit peu d'actu qui arrive. On va faire des choses prochainement.
Ouais.
Merci Damien, à très bientôt.
Avec plaisir, ciao.
Magie de la radio, nous étions sur le bassin en train de pousser la chansonnette avec Damien Sargue et Nicolas de Plage FM 89.1. Et d'un seul coup, nous voici téléportés partout en Gironde grâce à cette émission de radio spéciale à l'occasion de la 10e journée mondiale de la radio, sous le patronage de l'UNESCO et sous vos applaudissements aussi.
...2021, une année radiophonique. 100 ans de la radio, 40 ans de liberté des ondes, 20 ans de la Fédération des radios associatives de Gironde. Alors rendez-vous samedi 13 février sur notre antenne pour la Journée mondiale de la radio.
Une émission à suivre simultanément sur RCF, La Clé des Ondes, Aki FM, Mélodie FM, Campus Bordeaux, Radio Entre-deux-Mers et RIG Radio Iguanodon Gironde, ainsi qu'aux deux radios. Et c'est justement là que nous allons atterrir sur les hauteurs de ce nom, dans les studios d'O2 Radio 91.3, où nous attend Sandrine, animatrice et réalisatrice, avec un invité de marque pour évoquer l'univers merveilleux du podcast d'actualité dans le Grand Sud-Ouest. Bonjour Sandrine, qui est animatrice et réalisatrice à O2 Radio. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur O2 Radio, la petite radio qui, si mes souvenirs sont bons, est un petit peu dans la prairie, dans le parc du Loret, à ce nom? J'ai tout bon ou j'ai tout faux?
Oui, c'est bon, ouais. Ah, là, je vais répondre.
Tout à fait.
Bonjour à toutes et à tous. Alors O2 Radio, c'est la radio des Hauts-de-Garonne. On est situé effectivement sur la rive droite de Bordeaux. On a été créé en 1997. O2 Radio a donc 24 ans. C'est une radio qui souhaite mettre en avant la rive droite de Bordeaux et donc aussi ses habitants. Donc notre slogan, c'est notre diversité, notre identité. Donc on essaie de mettre en avant toutes les richesses de la rive droite.
Et dans le cadre de cette journée spéciale organisée par l'UNESCO, vous êtes intéressé au ce qu'on appelle le futur des radios, en tout cas un des futurs possibles des radios, à savoir les podcasts.
Oui, avec cette particularité de podcasting qui est donc un podcast d'actualité sur la région sud-ouest de la France, donc effectivement, et une seconde particularité puisque podcasting travaille avec plusieurs médias et dont aussi des médias associatifs. Donc je trouvais ça intéressant comme nouveau concept à mettre en avant.
Donc ça mélange à la fois les radios du coin, les organismes de presse, les webs magazines du coin, tout ça sous forme de podcast. Et votre invité, c'est aussi, je crois, le président du club de la presse de Bordeaux, à savoir Jean Berthelot de la Glettet.
Oui, voilà, c'est ça, Jean Berthelot de la Glettet. Ce qui est intéressant aussi à travers son interview, c'est que Jean Berthelot de la Glettet est à la fois un journaliste radio. Il collabore toujours avec Europe 1 et aussi la presse écrite. Donc, il a une expérience bien ancrée. Il intervient aussi en tant que formateur à l'école de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, à l'IJBA. Sur la thématique Nouveau Monde, Nouvelle Radio, je trouvais que ces différentes casquettes, à travers ces différentes casquettes, il pouvait avoir un point de vue intéressant à nous faire partager sur la radio de demain. Et donc, mettre en avant ce nouveau format, mais aussi avoir, lui, sa vision de la radio de demain. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi de parler de podcasting.
Eh bien, Sandrine, grâce à toi, je suis heureux d'annoncer aux auditeurs que allons-y, projetons-nous dans le futur de la radio grâce à ce sujet proposé par O2 Radio.
Merci à toi. Et bonjour à toutes et à tous. On va continuer à parler de cette 10e journée mondiale de la radio sous la thématique Nouveau Monde, Nouvelle Radio. Et on va parler de nouvelles façons de faire de la radio et de nouveaux concepts. Pour cela, on reçoit Jean Berthelot de la Glété, il est journaliste indépendant. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous collaborez actuellement avec Europe 1, vous travaillez aussi pour le Sud-Ouest Mag et revue Far West. Vous êtes aussi depuis 2019 président du Club de la presse de Bordeaux. Et enfin, vous êtes cofondateur de Podcasting. Podcasting qui est donc le premier podcast quotidien d'actualité régionale du Grand Sud-Ouest. Il est aussi le premier podcast à être lié non pas à un seul média, mais à plusieurs médias partenaires. Pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur la genèse de Podcasting ?
Oui, Podcasting est né d'abord parce que je suis un grand amateur de podcasts et j'ai donc écouté les podcasts d'actu avec grand intérêt lorsqu'ils sont apparus. C'était, me semble-t-il, en janvier 2018, le premier étant le Daily du New York Times. Et puis en France, ils sont apparus un an et demi plus tard avec Les Échos et Le Parisien qui ont lancé le même jour Code Source et La Story. Et j'ai trouvé ces formats vraiment très intéressants et au fur et à mesure, en plus, ils ont gagné en maturité, ils se sont, je pense, améliorés. Et il se trouve que je suis assez proche de celui qui fait Code Source, Jules Laville, ancien journaliste de France Info. J'en ai beaucoup discuté avec lui et au fil de nos discussions, eh bien, il m'est venu cette envie de décliner finalement ce concept du podcast quotidien d'actualité, mais non pas au national comme ça existait jusque-là, mais au régional et donc en particulier dans le Grand Sud-Ouest. C'est donc notre première particularité. Et puis, vous l'avez dit, deuxième particularité, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de nous lier à plusieurs médias indépendants. Il se trouve qu'on est dans une région, et je suis bien placé pour le savoir, puisque vous l'avez dit, je suis président du Club de la presse, on est dans une région où il y a beaucoup, beaucoup de médias, une grande diversité de formats, d'opinions, etc. Et ça me semblait intéressant de réunir un certain nombre d'entre eux autour de cette idée de podcast quotidien d'actualité.
Podcasting, concrètement, c'est quoi le concept ? Et pourquoi ce nom podcasting, qui est donc une contraction de podcast et de chocolatine ?
Oui, exactement. Bah, c'est vrai que quand on a créé ce podcast quotidien d'actualité, en un mot, hein, le concept du podcast quotidien d'actualité, c'est donc on fait raconter à une journaliste ou un journaliste l'article qui a été écrit et on lui demande aussi d'un petit peu d'en dévoiler les coulisses, comment s'est passé le reportage, quelle personne elle a interviewé, etc. Et donc, on a voulu avoir très rapidement cette idée qu'on parlait bien d'un podcast, mais aussi rapidement l'idée qu'on était bel et bien dans le Sud-Ouest. Et donc, on s'est référé à cette polémique un peu bienveillante. Il n'y en a pas beaucoup hein, sur Internet, notamment, des polémiques bienveillantes, mais celle-ci en est une autour de la chocolatine et du pain au chocolat, bien sûr. Et on sait que tout le Sud-Ouest défend cette appellation de chocolatine. Et il nous a paru un clin d'œil amusant de nous appeler podcasting en référence à la chocolatine.
Alors concrètement, podcasting, ça marche comment ?
Alors les interviews, elles durent entre 12 et 19 minutes, on s'est pas vraiment fixé une durée beaucoup plus précise, et lorsque l'on estime qu'une interview vaut davantage que cela, eh bien on la découpe, on fait plusieurs épisodes, il nous est arrivé de faire 2, 3, jusqu'à 5 épisodes autour d'un même thème. L'idée c'est que donc on a une dizaine de médias partenaires, nous chaque semaine on fait le tour de nos médias partenaires, on essaie de voir ce qui va sortir, ce qui est sorti, etc. Et lorsque l'on voit des articles qui nous paraissent d'abord intéressants, mais c'est pas la seule condition, qui nous paraissent également pouvoir être raconté sur une quinzaine de minutes, eh bien on prend contact avec les journalistes qui les ont écrits et effectivement on les interviewe et on leur demande de détailler un peu les raisons pour lesquelles ils ont souhaité faire ces articles-là, comment ils ont pris contact avec les gens, ce qu'ils ont pensé de leur démarche, comment ça s'est passé, ce que l'on peut éventuellement creuser pour aller plus loin sur le sujet. Et c'est donc de cette manière-là que l'on conçoit nos programmes, et ensuite ces programmes-là, on peut les retrouver donc à la fois sur notre site podcasting.fr et sur tous les, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Chaque jour, donc, l'application est mise à jour et donc on a un nouvel épisode de podcasting qui apparaît. Et si on est abonné, on le voit apparaître directement grâce à un push.
La particularité de podcasting est de partager le travail de plusieurs médias. Pourquoi et comment a été accueilli ce projet ?
Très bien, il a été très très bien accueilli. J'ai vraiment pris ça avec beaucoup de satisfaction, ça m'a donné confiance dans le projet. Il y a un seul média qui a refusé, mais pas du tout pour des raisons idéologiques, simplement parce qu'il n'avait pas le temps, malheureusement, pas assez de temps à nous consacrer. Et sinon, tous les autres médias que l'on a démarchés ont tout de suite été très enthousiastes. Ils ont accepté de collaborer et depuis, ils le font avec beaucoup de régularité et toujours autant d'enthousiasme.
Quels sont vos objectifs à travers ce média ?
D'abord, c'est de mettre en avant la diversité médiatique de notre région. Ça me paraît très intéressant parce qu'on est quand même l'une des régions où il y a le plus de médias et le plus de médias divers. Et c'est pas toujours quelque chose qui est connu. Or, on le sait, le podcast s'adresse à des gens qui sont des consommateurs de médias, mais aussi à des gens qui ne consomment pas des médias par d'autres biais. Et donc, nous, notre idée, c'est d'amener à ces consommateurs-là l'information selon laquelle il existe, voilà, rue 89 Bordeaux, il existe rue Far West, il existe la radio La Clé des ondes, etc. Et que ça peut être vraiment des sources d'informations intéressantes pour eux, et que par ailleurs, par notre biais, ils peuvent aussi accéder à l'information qui est donnée par ces médias-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et qui me paraît très très importante, et je l'ai constaté à de multiples reprises avec le Club de la Presse, et d'ailleurs on le constate tous en tant que journaliste, il y a évidemment une méfiance grandissante de la part du grand public envers les journalistes, pour tout un tas de raisons, qui sont d'ailleurs pas forcément que des raisons illégitimes, mais toujours est-il que cette méfiance-là, cette défiance, eh bien, elle peut se combattre de mon point de vue, pas dans tous les cas, hein. Il y a des gens qui resteront irréversiblement opposés aux journalistes, mais ce que j'ai constaté, en tout cas en faisant des réunions avec des associations, avec des personnes du grand public, disons, avec le Club de la Presse, c'est que quand on explique notre métier, quand on explique pourquoi on fait des choix, comment on les fait, comment on travaille, etc., eh bien, la plupart du temps, cette défiance a tendance à se réduire. Et c'est un peu, enfin même, c'est totalement le but de podcasting aussi, c'est de répondre à toutes ces interrogations. Pourquoi on a choisi tel sujet? Pourquoi on l'a traité comme ça? Et bien voilà, là on donne quelques pistes et on permet justement au grand public de se faire une idée plus précise de la manière dont travaillent les journalistes du territoire.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous choisissez vos sujets?
Évidemment, c'est d'abord des sujets qui nous interpellent, qui nous intéressent, ça c'est la première chose, et ensuite en conférence de rédaction on en discute et on voit surtout si c'est un sujet qui est capable de tenir la longueur sur 15 minutes. Il y a parfois des sujets qui sont très amusants, très intéressants, mais que malheureusement on ne va pas pouvoir traiter parce qu'ils ne se prêtent pas à ce que l'on pourrait qualifier de storytelling, mais du storytelling pas pour vendre des pots de yaourt, ce qui est respectable, mais pour vraiment réussir à intéresser les auditrices et les auditeurs et les emmener, et en fait chaque épisode est un peu conçu comme ça, un peu comme un voyage, on prend des auditeurs par la main et on leur dit venez voir, on a des choses à vous raconter, et on essaie de mettre en scène un petit peu cette information sans rien enlever évidemment au fond, mais en essayant de donner une forme la plus agréable possible à cette information-là.
Jean Berthelot de Laglété, pouvez-vous nous dire quel est le modèle économique de podcasting ?
Oui, alors il y a d'une part quelques publicités qui terminent chaque épisode de podcasting et qui nous rapportent un petit peu d'argent. Pour le moment, c'est pas énorme parce qu'on n'a pas assez d'auditeurs pour que ça soit véritablement rentable. Et donc notre modèle économique est un petit peu ailleurs, c'est-à-dire que l'on va proposer des séries sur des thèmes éditoriaux qui nous intéressent et on va tenter de trouver des partenaires, enfin on tente et on trouve des partenaires qui justement vont nous accompagner financièrement là-dessus et donc on va dire telle série est rendue possible grâce au soutien de telle entité, une marque ou une institution, évidemment des marques ou des institutions avec lesquelles on est en accord en tout cas sur les valeurs essentielles. Et voilà, on a commencé cela avec notamment une série consacrée aux artistes et en particulier aux artistes en confinement qui a été sponsorisée par les affaires culturelles de la mairie de Bordeaux. On va multiplier ce genre de démarches à l'avenir puisque pour nous ça ne pourra jamais passer par une contribution des médias qui sont nos partenaires ou par une contribution financière de nos auditeurs. Le modèle doit être à chercher ailleurs et c'est ce modèle-là que l'on a pu imaginer.
Jean Berthelot de Laglété, j'avais envie pour une dernière question d'avoir votre regard avec votre expérience en tant que journaliste indépendant. Vous êtes aussi formateur radio à l'école de journalistes de Bordeaux, Aquitaine. Sur cette thématique de cette 10e journée mondiale de la radio, qui est donc Nouveau Monde, Nouvelle Radio, pour vous, elle sera comment la radio de demain ?
Il me semble que le média radio de demain sera de plus en plus connecté et personnalisé. J'ai l'impression quand même que c'est aussi ce qui explique le succès des podcasts, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir des programmes qui nous ressemblent, on a envie de pouvoir zapper des programmes auxquels on est parfois moins sensible. Et donc la manière dont je l'imagine demain, c'est une sorte de panachage d'émissions, de programmes qui nous intéressent, dont on sait qu'ils nous intéressent, mais aussi de suggestions, alors proposées soit par des algorithmes, soit, et je l'espère de plus en plus, par des affinités humaines, on va dire, et par des communautés peut-être. Mais en tout cas, voilà comment je l'imagine, la radio de demain. Je l'imagine pas forcément moins écoutée, mais en tout cas sans doute écoutée différemment, en tout cas si on ajoute à la radio le podcast, et y compris les podcasts natifs. Voilà la journée d'un auditeur de demain, c'est ainsi que je l'imagine, c'est toujours autant de son, toujours autant d'audio, mais peut-être plus personnalisé et encore plus personnalisé à mesure qu'on va avancer dans toutes ces technologies qui nous permettent justement d'avoir accès aux émissions qui nous intéressent et de zapper celles qui nous intéressent beaucoup moins. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que de mon point de vue, il ne faut pas opposer la radio et le podcast, y compris le podcast natif. Je crois qu'on a beaucoup tendance à le faire en ce moment et je trouve ça un petit peu regrettable. Et ça vient, je pense, notamment des radios et en particulier des radios les plus traditionnelles qui ont un peu de mal, je crois, à se pencher sur ce sujet du podcast natif, qui l'ont regardé longtemps avec une manière de condescendance ou de dédain, ce que je trouve assez regrettable aussi. Et je crois qu'elles ont tout intérêt à essayer de comprendre ce qu'elles peuvent tirer du podcast natif, ce que cela peut leur apporter. Et du reste, on a des radios, hein, bien sûr, qui commencent à le faire. Et je pense que c'est la voie qu'elles peuvent suivre. Je crois pas du tout que podcast natif et radio s'opposent. Au contraire, il y a une grande complémentarité à trouver entre les deux, de mon point de vue.
Pour vous, quelles sont leurs vraies différences entre la radio FM et le podcast et leurs utilités ?
Alors, pour moi, leur différence, en tout cas à l'heure actuelle, c'est que la radio peut s'écouter partout et par tout le monde. C'est vrai que ça, c'est encore pour le moment, en tout cas, quelque chose qui est assez différent des podcasts natifs. On est très nombreux, et en particulier dans les jeunes générations ou dans les personnes qui sont d'âge moyen, on va dire, à utiliser très facilement les podcasts natifs, notamment via notre téléphone, bien entendu. Mais il y a quand même toute une génération au-dessus qui a beaucoup moins l'habitude de faire ça, et je pense que c'est encore beaucoup elle qui écoute la radio, pas uniquement. Il y a aussi, je pense, un côté pratique quand on est dans la voiture, quand on est dans la cuisine, etc. On a encore peut-être davantage ce réflexe d'écouter la radio plutôt que d'écouter des podcasts natifs. Je pense que c'est pour le moment largement ce qui fait la différence. Après, évidemment, la radio, c'est l'avantage de pouvoir l'allumer à n'importe quel moment et de tomber sur des programmes, alors qu'il y a quand même une démarche un peu différente avec les podcasts. Il faut chercher ce que l'on va écouter, il faut choisir, etc. Donc je pense que la différence est encore là, mais encore une fois, de mon point de vue, c'est une différence qui va avoir tendance à s'estomper dans les années à venir, puisque on peut déjà le faire, mais ce sera encore plus intuitif et facile à l'avenir. On va pouvoir créer des flux en continu qui vont regrouper, encore une fois, des programmes qui vont nous intéresser ou qui sont susceptibles de nous intéresser. Et donc je pense que petit à petit, les deux médias vont de plus en plus se fondre pour ressembler à un seul média en réalité. Ça, en tout cas, c'est mon point de vue.
Merci à vous, Jean Berthelot de la Glété, de nous avoir présenté Podcastine, le premier podcast quotidien d'actualité régionale du Grand Sud-Ouest, avec sa particularité d'être construit avec plusieurs médias indépendants du territoire. Vous pouvez écouter Podcastine sur leur site podcastine.fr, mais aussi sur des plateformes comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast.